Le patriarcat est une narration et elle a fait son temps.
Aujourd'hui, nous vivons encore les conséquences de l'esclavagisme et du colonialisme.
Sous la chape du silence,
nos cœurs vibrent et hurlent.
La vie palpite.
De l'air.
Pour faire notre chemin dans ce monde, nous avons besoin de force et de nuances.
Nous voulons partager ce qui nous tient.
Nous bouge.
Nous bouleverse. Nous traverse.
Nous voulons prendre le temps de déployer nos audaces.
Pour se délecter ensemble
des singularités.
C'est pas du courage, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi.
Et la poésie, ça casse les frontières. Et c'est cet espace pour l'imagination qui m'a permis d'accumuler de la force et de livrer mes batailles.
L'éclat des noctules, une émission féministe, radicale, tendre, joyeuse.
Sur Roi du Royan, 93 FM. Bonjour.
Bonjour.
On est en studio ce matin avec Céline, Yori, Gaëlle à la technique. On fait un petit bisou à Jojo qui n'a pas pu être avec nous ce matin.
Jojo, on pense fort à toi, plein de bisous.
Et alors aujourd'hui, on va parler du look. Ce corps qu'on habille pour se protéger du froid, du chaud, des blessures, pour le protéger des regards, pour y répondre à ces regards, pour exister ou ne pas exister parmi ces regards. Nos habits, c'est aussi une enveloppe juste après la peau. Tout contre soi. Habit, c'est habitation en plus petit. Une enveloppe comme une première maison qu'on peut avoir envie de sentir contenante, ou lourde, ou douce, ou solide, ou légère. On pensait que le look, ce serait léger pour commencer cette nouvelle saison des Noctules. Mais en fait, l'image prend une place tellement centrale dans notre société que les relations sociales, la construction de la vie sociale et la construction des significations sont toutes entrelacées de ce qu'on voit et comment on se voit. Du coup, ce qu'on se choisit comme image, oh là là, c'est toute une histoire et même plein d'histoires différentes. Et aussi, la façon dont on le choisit, son style, si on est malvoyante, ou alors si on est en prison ou en institution, avec la différence entre les personnes qui ont des uniformes et d'autres qui n'en ont pas. Ou alors si on n'a pas beaucoup de sous, si on est sous pression sociale ou relationnelle. Le style, ça peut cacher ou révéler nos corps et trouver les bonnes fringues et accessoires. Ça peut être une partie de plaisir, mais aussi un moment frustrant, éprouvant, voire plus. C'est que beaucoup de personnes s'habillent pas toujours comme elles ont envie, parce qu'il y a des risques d'agression, de moquerie, de discrimination. Alors dans le look, on aurait pu parler de réappropriation culturelle et on aurait pu parler aussi du style comme un acte politique, comme par exemple le mouvement des sapeurs, la SAP, la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Et c'est un mouvement qui se décrit comme un mouvement esthétique vestimentaire, souvent comparé au dandysme, mais en réalité il est bien plus qu'une affaire d'habillement. La SAP a ses origines dans la contestation qui date de la fin du 19e siècle au Congo, lorsque les esclaves décident de s'habiller de façon luxueuse comme les colons, ou à la création du mouvement avec l'action d'André Matsua qui refuse d'abandonner son uniforme après la guerre du Rif en protestation au sort réservé aux tirailleurs démobilisés. La guerre du Rif, c'est une guerre coloniale qui a opposé les tribus Rif aux alliés espagnols et français et avec le sultan marocain. Du coup, le mot « sape » recouvre les mêmes significations que dans un travail de sape, soit l'action secrète et incessante pour détruire la réputation, le travail de quelqu'un ou de quelque chose. Cette insoumission répond à l'oppression de la société occidentale qui souhaite que les Congolais et les Congolaises se fassent discrètes et invisibles. On aurait pu aussi rendre hommage à Madeleine Vionnet, une grande, grande couturière oubliée, qui a vécu de 1876 à 1975, qui a aboli le corset et la gaine et qui, en 1912, crée sa boutique. Et Madeleine Vionnet, notamment, elle a fait des sapes incroyables, mais aussi c'était une précurseur sur le plan des droits sociaux. Parce que avant les mouvements de 1936, elle a donné des conditions de travail à ses couturières qui étaient exceptionnelles. Par exemple, elle a inventé, avant leur existence législative, les congés payés, les congés maternité, les congés maladie, et elle a encouragé ses ouvrières au moment des années 36 des grèves, à faire grève aussi pour soutenir les autres personnes qui n'avaient pas les mêmes droits qu'elle, encore. Elle a aussi mis en place des chaises plutôt que des tabourets pour ses ouvrières. Et elle a mis, ça c'était une grande première aussi, une cantine sur le lieu de travail et aussi des dentistes et des médecins pour avoir un accès aux soins. Elle a aussi, et enfin, mis en place en plus des cours de couture pour transmettre ces nouvelles techniques, qui étaient notamment la technique de biais, des cours d'arithmétique et des cours de grammaire pour populariser l'accès aussi à l'éducation. Alors voilà, on aurait pu parler encore plus de Madeleine Vionnet, mais finalement, nous, on a pu déplier que des petits bouts de ce vaste sujet qu'est le look, et notamment ce que le look fait au genre, en faisant des petits détours surprises.
Et pour commencer cette émission, il nous semblait important de revenir sur une actualité brûlante de cette rentrée scolaire, une énième sortie islamophobe du gouvernement contre les jeunes femmes musulmanes. Donc nous choisissons ici de partager des extraits du communiqué de l'ALAB, publié le 5 septembre sur leur site, une association féministe et antiraciste dont le but est de faire entendre les voix et de défendre les droits des femmes musulmanes. Nous apportons notre soutien aux premières concernées et faisons part, par là, de notre inquiétude quant à l'extrême droitisation de la société. On va vous le lire à trois voix. Alors, ça commence comme ça. Le 27 août dernier, à quelques jours de la rentrée scolaire, Gabriel Attal, nouveau ministre de l'Éducation nationale, annonce sur TF1 « Oui, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école ». S'inscrivant ainsi dans les pas du Rassemblement national qui demandait quelques mois plus tôt au Sénat l'interdiction des vêtements religieux par destination.
Nous dénonçons une énième campagne de harcèlement à l'égard des jeunes filles musulmanes qui sont une nouvelle fois les cibles de l'islamophobie au plus haut niveau de l'État. Après la loi de 2004 interdisant aux jeunes filles musulmanes de porter un foulard au sein des établissements publics, voilà maintenant qu'elles n'ont plus le droit de porter ces robes longues, abaya, une dérive de la loi de 2004 attendue et dénoncée depuis 20 ans maintenant, qui s'accélère sous la pression de l'extrême droite et l'extrême droitisation des discours politiques.
L'ALAB dénonce un harcèlement islamophobe, sexiste et raciste, qui donne libre champ au délit de faciès dans l'enceinte de l'école. Les jeunes filles musulmanes racisées seront donc en première ligne de ce profilage racial et de ce fichage religieux, ce qui est une bien plus grande atteinte à la laïcité que l'abaya ne le sera jamais.
L'ALAB dénonce donc une attaque grave contre cette laïcité, telle que posée dans la loi de 1905. Alors que le principe de laïcité garantit la liberté de conscience et de culte et impose la séparation des églises et de l'État et la neutralité de ses agents, on va demander à des personnels de l'éducation nationale de déterminer quel vêtement est religieux et lequel ne l'est pas. Alors que l'école est un droit et qu'elle doit être un espace d'apprentissage de la liberté et de l'égalité, Gabriel Attal entend y renforcer la discrimination, le harcèlement, le sentiment de rejet et d'insécurité et l'injustice à l'égard des jeunes filles musulmanes qui seraient les seules à ne plus avoir le droit de la liberté vestimentaire.
Force est de constater que les réactions des différents partis politiques et des principaux syndicats ne sont pas à la hauteur. Certains applaudissent des deux mains à l'unisson de l'extrême droite, ayant depuis longtemps perdu leur boussole politique. D'autres dénoncent une manœuvre politicienne qui détournerait des vrais problèmes que rencontre l'éducation nationale. Vrais entre guillemets. Comme si l'islamophobie, le racisme et le sexisme, s'exprimant à toutes les échelles de l'institution, n'étaient pas un vrai problème.
Nous, femmes musulmanes, sommes épuisées face à cet acharnement politique et médiatique sans fin qui a des conséquences sur notre santé physique et notre santé mentale, sur nos parcours scolaires, notre droit à l'éducation, nos futurs possibles. Combien de jeunes filles vont se présenter chaque jour devant leur établissement, la boule au ventre, à se demander si aujourd'hui elles pourront accéder à l'enseignement ou si pour cela elles devront être déshabillées de force en place publique par les agents de l'État. Nous sommes épuisés de ce recul de nos droits, de ces milliers d'heures de débats publics sur nos corps, nos vêtements, nos pratiques, notre droit à la sécurité, à la dignité, à l'autodétermination. Face à des règles qui visent tout simplement à annihiler notre existence en tant que citoyenne française ou vivant en France.
Et pour finir, que faire ? Quelques suggestions de l'association L'ALAB. Soutenir les collectifs et associations qui agissent pour les droits des enfants, des femmes musulmanes et ou racisées, des personnes musulmanes. créer du contenu et relayer les témoignages des premières concernées face aux violences sexistes, racistes et islamophobes au sein de l'éducation nationale, comme la LAB le fait depuis des années. Connaître ses droits en lisant la fiche pratique réalisée par le CCIE, qui est trouvable en ligne, en se faisant accompagner par eux, par le défenseur des droits ou par un ou une avocate. Et encore, s'organiser collectivement.
L'intime et le social se rejoignent. Enfin, je veux dire, en effet, les habits, c'est tout près de nous, c'est collé, c'est plein de désirs, c'est plein d'envies, c'est plein, bon, enfin, il y a les mauvais souvenirs, les bons souvenirs, et en même temps, bah, c'est quand même le symbole de l'ultramondialisation, quoi. Voilà, on ne sait pas qui les fabrique.
C'était Violaine Schwartz au micro de France Culture à propos de son livre. Je ne sais plus le titre de ce livre-là.
On ira
sur
chercher.
La mondialisation, sur une usine qui brûle, une usine de vêtements qui brûle. Et tout de suite, on va écouter Bambi, une artiste qui travaille dans la région de Genève, qui travaille avec plusieurs supports et notamment les vêtements.
C'est ça que j'aime bien, à monter des dossiers, à faire des budgets, en fait, parce que ça force aussi à préciser ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu le fais, qu'est-ce que tu veux dire avec, à qui tu veux t'adresser. Enfin, en fait, ça force à être beaucoup plus précis que juste « Ouais, je vais faire ça et puis on verra, je fais ça un peu au bol. » Parce qu'en fait, la SAP, je trouve que c'est pas du tout quelque chose qui est au bol, tu vois. Genre, ça concerne tout le monde, c'est un marqueur social aussi.
De ouf.
Ça veut dire que, alors mon premier postulat, tu vois, quand je réfléchis un peu à la philosophie de la SAP, dans le monde patriarcal, on a une défiance un peu viriliste. Il y a une grosse défiance à propos de tout ce qui est superficiel, genre tout ce qui est esthétique et tout ce qui n'est pas utilitaire, non ? Et du coup, ça, c'est quelque chose qui vient clairement d'une pensée du patriarcat, tu vois, et du virilisme. Et comment est-ce que tu marques ta virilité, tu vois? Et en plus, ce qui est particulièrement paradoxal avec je sais pas, parce que c'est général, c'est pas tout le monde, non? Mais avec cette tendance ou ce stéréotype sur la mode et le look et sur le fait d'être superficiel, c'est que les mêmes personnes qui disent qu'elles ont pas de style et que ça les impacte pas, la mode, et qui prétendent être distancié de la mode, ne pas faire partie de ce tout, en fait, en font partie. Parce que chaque jour, ils s'habillent quand même, ces personnes, tu vois. Et c'est ça un peu le commun. Chaque jour, tu vois, il y a quand même des gens qui choisissent de mettre ce pantalon-là et pas un autre. Et du coup, de fait, ils s'incluent, en fait, dans une lignée esthétique qui est du coup un choix. Et en fait, il fait des choix, en fait, et qui sont liés au monde de la... Il ne peut pas s'en prétendre séparé. C'est aussi absurde que se prétendre séparé du monde animal quand on est un humain, tu vois. C'est sur ce même... En fait, peut-être que j'essaye d'en arriver là, c'est que c'est ce même mode de pensée, en fait, qui prend sa racine dans le monde patriarcal, qui sépare tout, non ?
Oui.
Alors qu'en fait, non, t'es pas séparé. Enfin, t'as choisi l'esthétique du no style, c'est tout. T'as choisi d'être moche aujourd'hui. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de s'y pencher, parce qu'en fait, c'est super politique, en fait, comme sujet. On pourrait penser que, genre, c'est assez léger et tout, mais dès que tu penses à la mode, ben, en fait, t'en arrives très, très vite à des trucs très, très lourds. Parce que, du coup, ça, c'était un peu le premier point sur ma réflexion. Du coup, ce postulat que même quelqu'un qui se considère en dehors de la mode est touché par elle et fait des choix de style, qui sont le choix d'une hostile. Puis après, du coup, t'en arrives alors à la fonction, en fait, de la SAP. Dans notre société, la SAP, elle a des fonctions, en fait, qui sont pas forcément dites, mais qui sont comprises et connues de toutes. Enfin, je pense qu'il y a une éducation aussi à la SAP. Et du coup, la SAP, c'est un marqueur de classe. Ça veut dire, si tu vois quelqu'un qui est sapé... dans marque de luxe, avec des signes ostentatoires de richesse, comme une montre qui coûte très cher, des belles chaussures, ben, tu marques ta classe. Tu marques le fait que ouais, t'as les thunes pour t'acheter ces sapes-là. C'est aussi un marqueur de genre. Enfin, ça, par exemple, tu peux l'expérimenter. Enfin, moi, je l'expérimentais avec beaucoup de poils sur les jambes et mes cheveux courts. Si je m'habille en boy, tout le monde me dit « monsieur ». Par contre, si j'ai les cheveux longs et que je m'habille en mini-jupe, que je me maquille beaucoup, il n'y a personne qui se trompe. Du coup, c'est un marqueur de genre aussi. Et c'est aussi, avec l'uniforme aussi, on en arrive à ça, l'uniforme aussi, c'est vraiment, je trouve que ça pousse à l'extrême ce marqueur d'identification. Ou quand t'as une personne qui revêt un uniforme, c'est comme si elle abandonne sa personnalité, non ? Et qu'elle devient un flic quand il met un uniforme, c'est plus un humain, en limite. C'est un flic qui il devient autre chose, non ? Et même, du coup, ça serait la fonction institutionnelle de l'uniforme, mais tu retrouves ça aussi en dehors du cadre institutionnel. Ça veut dire que quand je traînais dans les milieux crust, oui, il y avait un uniforme, très clairement. T'es un crust parce que t'as une crêpe à dread, parce que t'as une casquette qui est luisante de crasse, parce que t'as le t-shirt sérigraphié du dernier groupe de crust qui tourne, parce que t'as un sweatshirt déchiré noir. Et du coup, aux humains, c'est important parce que ça permet de se reconnaître entre certains groupes. Du coup, ça a vraiment une fonction sociale, le vêtement. Ça permet de se reconnaître. Et du coup, la tape, elle a cette fonction de marquer classe, de marquer une fonction, de marquer un genre. Et quelque chose qui va être visible très rapidement. Ça veut dire que c'est des coups d'œil. Toute cette lecture que je te parle, là, ça se fait en quelques secondes pour notre œil, en fait. Qui est notre œil de personnes qui auront quelques dizaines d'années à notre actif. Genre, c'est quelque chose qui a été éduqué et qui est vraiment inconscient maintenant. Or, on peut enlever et mettre un vêtement. On peut récupérer de la salle de luxe. On peut clairement jouer et flouter et... L'être vivant, il est plus compliqué que juste la salle qu'il met, non ? Du coup, je trouve qu'on en arrive aussi à la fonction de camouflage ou d'arme de la salle. Comme toi et moi, on a pu l'expérimenter. Enfin, quand toi, je m'en rappelle, tu passais les lignes de keuf... que t'étais habillée avec ton écharpe en petite meuf et puis qu'aucun keuf t'arrêtait, ou comme nous quand on allait voler et qu'on s'habillait en bourgeois et puis que personne nous faisait chier, et comment on s'organisait avec les équipes à Copé en Suisse où il y avait des personnes habillées luxe qui allaient voler et d'autres personnes habillées schlack qui foutaient la merde dans le magasin pour occuper les sécu. Enfin, comment les flics aussi ils tombent dans ces ornières-là, et ils se font avoir, tu vois, en arrêtant les personnes avec le délit de faciès. Je trouve que c'est important de se répéter ces bases, parce que ça permet de faire un état des lieux de ces habits qu'on porte au quotidien, et qui... ça peut jouer contre toi. C'est multiple, quoi. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir la détourner et de jouer avec. Je crois que j'ai posé un peu la fondation de ma réflexion sur la SAP, même si sûrement j'oublie des choses. En fait, ça prend beaucoup d'énergie, en fait, de jouer en dehors de ces codes. Enfin, c'est beaucoup. Moi, je trouve que c'est des fois, c'est beaucoup plus facile d'être tapé d'une manière très anonyme et que personne te regarde. Et ça prend beaucoup moins d'énergie que. Bah, j'adore faire ça, par exemple. Tu vois, m'habiller en méga beach et puis tortiller du cul avec mes gros poils sur les jambes. Tu vois, ça me fait une espèce de sensation jubilatoire où, quand j'arrive devant un groupe de gars et tout et que je suis dans cet état d'esprit boss beach. Bah, de loin, ils te voient et ils sont en mode « Yeah, what's that bitch ?» Puis après, ils te voient approcher et t'es là avec tes gros poils et tu les regardes en souriant avec un air un peu genre « Et du coup, là, tu vois dans leur regard, il y a un truc qui change en mode incompréhension et t'as fait péter un petit code. Et des fois aussi, ça met en danger, tu vois, genre j'ai eu une pote à qui je parlais de ça et elle a du poil au menton et que des fois, il y avait des gars qui disaient « Ah !» qui était pas sûr sur son genre et qui venait lui montrer leur bite, tu vois. Ça amène aussi, du coup, dans des zones, en fait, qui sont réellement dangereuses, en fait. Et que ça prend de l'énergie, en fait.
Ouais, ça amène dans des zones qui sont réellement dangereuses.
Ouais, et du coup, c'est pas anodin.
C'était la chanson « Si un jour » du groupe La Femme.
Et pour continuer cette émission des noctules sur les sapes et le look, eh ben, on a préparé une petite interview avec Youri par rapport à des discussions qu'on a eues ou des moments d'échange autour de la question du genre et la question des vêtements, et notamment ton expérience avec tout ça. Et du coup, ben voilà, on va y aller comme ça au fil de l'eau avec plusieurs questions. Mais moi, je me demandais un peu qu'est-ce que tu cherchais quand tu, voilà, avec cette histoire de vêtements, ou qu'est-ce qui te posait, qu'est-ce que ça te permet par rapport à ces questions de genre.
Ok, alors j'avais commencé à réfléchir de manière un peu plus large que juste la question de genre, mais du coup, je vais partir sur ce que j'avais au début parce qu'en fait, il y a tout qui se tenait. Alors, la question sur laquelle je m'étais préparée, c'est que vises-tu quand tu cherches des vêtements? Et en fait, je me suis rendu compte en réfléchissant que j'avais pas réalisé avant, mais en fait, il y a plein d'enjeux. Que par exemple, il y a certaines textures que je supporte pas, ou je supporte pas quand c'est serré à certains endroits. Et que du coup, il y a une vraie question de confort. Et aussi que je suis frileux et je galère des fois à réguler ma température. Du coup, j'ai un peu cette stratégie, je sais pas si vous voyez, de l'oignon où t'as 25 épaisseurs que tu peux enlever ou remettre avec des fermetures éclair parce que c'est plus simple. Et aussi, j'ai pas beaucoup d'espace mental pour être soigneux, du coup, je prends beaucoup des vêtements qui sont pas salissants. Et mine de rien, tous ces trucs-là, enfin, je rebondis sur ce qu'il y avait avant dans l'entretien, mais l'idée du no-style, oui, il y a des endroits où on est no-style parce qu'on veut être no-style, et il y a aussi des endroits où, une fois que t'as trouvé un truc qui répond à tous ces enjeux-là, et bah, il faut encore de l'énergie, ou de la thune, ou de l'attention pour, en plus, avoir de la classe, quoi. Aussi, j'aime bien. Un autre truc qui joue dans comment je choisis les vêtements, c'est le fait d'avoir des poches. Comme je suis un peu distrait, le fait les poches, c'est la vie, quoi. Ça fait que tu peux avoir tes trucs avec toi sans te dire « mince, où est-ce que j'ai mis mon truc ?» Du coup, il y a tout ça. Et plus sur l'aspect apparence, quoi, parce que ça, c'est que des contraintes qui ne concernent pas vraiment l'apparence. Je me rends compte qu'il y a un truc qui est de l'ordre de me faire un bord. Je me rappelle, genre, quand je suis arrivée, en sortant de l'école primaire au collège, et que moi, plutôt, je me faisais insulter et cracher dessus parce que j'avais des vêtements qui étaient trop colorés, ou en tout cas qui n'étaient pas standard. Et moi, je comprenais pas pourquoi tout le monde était en jean et en fringues de marque ultra chère. Et j'étais pas là-dedans. Du coup, je trouvais ça nul et moche, quoi. Et ça a été jusqu'au fait que le proviseur du collège avait fini par me demander d'arrêter de porter certaines fringues en disant qu'il pouvait pas assurer ma sécurité, quoi. Que c'était pas... Ouais. J'avais un chapeau rouge, il m'a dit « Là, il va falloir arrêter, je peux pas... » Du coup...
Tenir les foules.
Ouais, c'est ça. Enfin, que c'était pas... C'était tellement pas raccord que ça devenait dangereux, quoi. Du coup, ouais, il y a tout ça qui est déjà en amont de la situation de maintenant, plus aussi le fait de vouloir être pas trop visible, pas trop exister. L'idée un peu d'être terne pour passer à travers. Que quand j'étais gosse, un jour, j'étais en jupe, et il y a un gars, du coup, qui avait voulu voir ma culotte, et on s'était retrouvés à fuir et se planquer avec ma meilleure amie pour lui échapper. Et on était piottes, on était à pied, et lui était en vélo, il était plus grand. Et du coup, je pense qu'il y avait un truc de... En vrai, on avait plein de trucs passionnants à se raconter avec ma pote, et on avait vraiment autre chose à foutre que courir pour échapper à un connard qui s'était dit que, tiens, il aurait sans doute... Enfin, tu vois. Du coup, là aussi, il y a... Voilà. Ça faisait que j'étais mis en futale, un peu l'idée d'être planqué, quoi. Sauf les jours vénères, où pareil, j'avais ce truc de me mettre en mini-jupe, mais en sachant que... Vas-y, viens, tu veux qu'on parle, on va parler, quoi. Et ouais, sur tout ça, je suis plus tranquille maintenant que j'ai les cheveux blancs. Et du coup, sur cette question de comment ça me permet ou non d'incarner mon genre, avec toutes ces contraintes-là, ça fait que je me suis rendu compte ces derniers temps que plutôt je vise un passing masculin, mais que du coup, ça tend vers un truc ultra terne, quoi. Que les moments où je dois taffer, être un peu correct pour le taf, par exemple, j'ai l'impression d'avoir reconstitué la garde-robe de mes grands-pères. Du coup, le truc de patriarche hétérosexuel, voilà. Ce qui, à la base, me fait pas vraiment rêver, quoi. Et que... Ouais, voilà. Du coup, un truc un peu conformiste et rétrograde.
Et tu trouves facilement des fringues... Par exemple, ici dans le Royan, ou je sais pas, c'est quelque chose qui est facile pour toi?
Bah, des fringues, j'en trouve. Il y a des personnes qui m'enfilent, j'en trouve d'occasion ou quoi, mais des fringues qui me plaisent vraiment, où je me reconnais, où je me sens, je sais pas, soutenue, protégée moi-même, c'est hyper rare. C'est super quand ça arrive. Ensuite, du coup, c'est ceux que je porte un peu tout le temps, genre ma veste à capuche avec des vieux motifs floraux ou mon manteau en faux poil. Ils sont à la fois à ma taille, protecteurs par leur poids, adaptés parce qu'ils sont chauds et à la fois faciles à ouvrir. Le manteau peut même servir de couverture des fois où je peux m'allonger dessus quand je suis KO. Sans compter qu'ils sont hyper classe et que je les ai trouvés tous les deux d'occasion pour quelques euros. Du coup, ils cochent toutes les cases, mais tu vois, ils ont... Je pense que ça fait 5-6 ans que je les ai et j'en ai pas trouvé d'autres qui viennent à ces places-là, quoi. Mais aussi que, du coup, des trucs dans les... qui me plaisent vraiment, en fait, c'est pas facile, quoi.
Et il y a des questions, je sais pas, économiques ou écologiques qui se mêlent à tout ça ?
Oui, grave. C'est sûr que le fait de choper surtout des fringues, d'avoir pas méga thunes, ou plutôt de choisir de pas mettre mes thunes là-dedans, ça fait que, bah oui, j'ai des fringues d'occasion, du coup, souvent un peu trop grandes, parce que vraiment trop petites, j'aime pas. Un peu trop grandes, un peu élimées. Ensuite, il y a des trucs facilitants, comme le fait que j'ai un corps plutôt normé, du coup, ça c'est tranquillou. Mais oui, le fait de choper des trucs, et puis oui, l'occasion, c'est un enjeu économique et aussi un enjeu écologique. Par exemple, quand la première fois que j'ai essayé d'être prof et que du coup, il fallait que j'ai une apparence respectable parce que j'avais à peu près le même âge que les élèves et tout ça, à un moment, je m'étais dit que, je sais pas où j'avais chopé cette idée, que j'allais vendre mes cheveux, j'avais les cheveux hyper longs, pour m'acheter un costard. Je m'étais dit, bah, en fait, ok, je veux bien être prof, je veux bien être respectable, mais je vais pas être en jupe, quoi. Et puis, j'ai fini par m'acheter un costume H&M, pas cher, du coup, et c'était l'un de mes derniers achats neufs, mais ça garde un goût amer de trucs de... On sait en fait que ça a été fait dans des conditions terribles par des gens qui, eux, peuvent pas passer les frontières, mais que les fringues, t'inquiète, elles passent les frontières. Ça fait un truc où c'est comme si je portais sur moi la résignation, quoi. Et que du coup, ça... Voilà.
Et du coup, tu dirais que c'est plus facile ou moins facile de trouver des vêtements quand on cherche à performer le genre féminin plutôt que le genre masculin dans ce que tu vis aujourd'hui ?
Non, je pense pas du tout. Pendant des années, j'ai juste négligé mon look et ça suffisait pour faire masculin. Ce qui est plus compliqué, c'est quand pour une raison ou pour une autre, ça nous importe d'avoir des vêtements qui ont un peu d'allure, quoi. Et aussi, quand on a un passing un peu faiblou, genre moi, je me rends compte que des fois, ça m'incite à du conformisme terne, juste pour pas me faire appeler madame, quoi. Et que, comme disait la personne dans l'entretien d'avant,
Bambi.
Comme disait Bambi, dans cette société viriliste et tout, dès qu'il y a un truc qui a un peu de la gueule, bah oui, ça rentre pas dans le truc viriliste du conformisme terne. Et du coup, surtout quand on n'a pas des grandes compétences en couture, pas 1000 thunes à mettre dedans et tout. Du coup, il y a plein de moments où je me dis vivement que j'ai une grosse barbe et une grosse voix pour que je puisse remettre des robes et des trucs à paillettes, quoi. C'est... Bon, je sais pas si ça va arriver, mais...
Et du coup, t'as des stratégies un peu pour contourner ou dealer avec tout ça et peut-être trouver à t'habiller comme tu le souhaites ?
Alors ma stratégie, c'est un peu d'y aller au pif avec les résultats mitigés qu'on connaît. Ensuite, récemment, on m'a conseillé un bouquin qui s'appelle « Genre queer » de Mayako Babé. Et dans ce bouquin, elle est ultra fan de quelqu'un qui s'appelle Johnny Ware, qui est un patineur artistique. Et qui incarne du coup pour Yael un modèle de masculinité à paillettes. Et que Yael réalise que depuis qu'elle essaye d'avoir un passing plus masculin, Yael en a marre de s'habiller comme un adolescent insipide. Alors moi, c'est plutôt le syndrome du vieux patriarche. Yael, c'est plutôt l'adolescent insipide. Et du coup, Yael propose des stratégies qui sont, est-ce que telle personne, par exemple, est-ce que Johnny Ware achèterait tel truc ? Et pour moi, ça marche pas parce que j'ai pas trop de modèles comme ça, mais... Ou sinon, Yael se donne des règles aussi comme ne pas acheter un t-shirt gris uni. Enfin, en fait, c'est interdit d'acheter un t-shirt uni. Et que du coup, ça, je le fais un peu des fois. Par exemple, après le moment où j'ai réalisé que j'avais vraiment que des fringues comme mes grands-pères, des espèces de petits pulls tout fins avec des cols chelous, je me suis dit, faut arrêter d'acheter des petits pulls tout fins avec des cols chelous, en fait, surtout gris ou brun, quoi. Voilà.
Et dans un monde idéal, ce serait quoi ton désir avec tout ça ? Qu'est-ce qui serait facilitant, agréable ?
Dans un monde idéal, j'aurais pas 1000 fringues trop serrées ou trop grandes ou trop ternes et toutes d'occasion que le tissu tombe en morceaux, mais j'aurais juste le bon nombre dans les bons tissus et qui joueraient aussi leur rôle magique. Ça veut dire qu'ils seraient très jolis à leur manière. Et la manière que j'aime bien, moi, d'être très jolie pour les fringues, c'est un peu une manière qui rend hommage au monde non humain, celui par lequel je me sens pas trop menacée et qui soutient plein de petites formes et de petits flux et tout. Et puis ce serait des fringues qui, comme je disais, qui traversent pas le monde dans tous les sens par des gens exploités qui, eux, traversent pas les frontières. Et puis, ce qui me ferait rêver dans un monde vraiment idéal, où ça mettrait pas 1000 ans, où ça demanderait pas des compétences pointues et tout. Ce serait de dessiner les motifs que j'aimerais avoir, genre des plantes qui poussent ici, des animaux qui vivent ici, des pierres d'ici. Parce que je trouve que c'est quand même un peu chelou d'avoir comme imaginaire que des trucs exotiques qui poussent pas là et que du coup ça fait partie de nos imaginaires de, d'une espèce de nature intacte qu'on finit par nous vendre à Ikea alors qu'il y a plein de trucs ici qui sont trop beaux et qu'on voit tous les jours et pas que dans les vitrines des bureaux où ils sont en train de prendre la poussière et de mourir. Et enfin ouais, ici aussi en tout cas il y a des formes où on peut prendre appui et qui changent avec les saisons et du coup ça me ferait rêver de dessiner ces motifs-là et qu'ensuite ils soient imprimés. J'aimerais bien tester en sérigraphie par exemple, voir ce que ça donne. Sur des tissus pas trop glissants ou chelous, et qu'ensuite ça fasse des vêtements. Soit si c'est moi qui couds, ce sera un grand rectangle, soit s'il y a des gens plus inspirés, ça ferait des jolies formes. Et des fois même, on pourra en faire des lestés pour les gens comme moi qui rêvent de vêtements lestés mais qui n'ont pas 170 balles à mettre dans un sweat à capuche. Bon, moi tu me demandes de rêver, je rêve, t'as vu.
Il y a autre chose que t'avais envie de rajouter
Non, j'ai l'impression d'avoir eu déjà énormément de paroles pour quelqu'un qui s'habille dans la manière dont je m'habille.
Alors, ben, merci pour tout ça. Et ben, pour continuer à réfléchir un peu sur ces enjeux de genre et de look et tout ça, moi, j'ai demandé à Hans, qui est un ami qui habite à Cray, dans la vallée de la Drôme, ben, de me donner un peu des éléments sur ce qu'il vit quand il fait du drag king. Et on va écouter ça.
J'ai bien compris que je pourrais pas garder qu'une partie de transgression en gouinerie. La lollipop est partie.
On a tous des lollipops, on risquerait d'écraser.
On a tous des bah, salut, bah, moi c'est Hans. Je suis une personne transmasculine qui vit dans la Drôme et qui pratique le drag king, entre autres. Bah pour resituer déjà le drag king, ça fait partie des pratiques de drag. Du coup, drag king, drag queen, drag queer, c'est des pratiques qui permettent de traverser, c'est des traversées pour moi, qui font faire l'expérience du genre et d'aller chercher bah, les marques du genre dans la posture, la place, les fringues, le look, le corps... le placement de la voix, le sourire, les expressions, enfin tout ça, tout ce qui fait la société dans laquelle on vit, qui est binaire, ce qui fait féminin et masculin, et puis de jouer avec ces codes-là, voilà, on pourrait dire que ça peut être des pratiques vues comme du travestissement, voilà, après c'est bien plus large que ça, dans le sens où c'est une pratique qui permet d'aller chercher au niveau de son identité de genre, et aussi d'aller chercher dans des choses plus légères. Voilà, il y a autant de manières de pratiquer le drag qu'il y a de personnes qui font du drag. Pour moi, c'est aussi le drag, c'est faire cette expérience de la performance du genre de façon consciente, parce qu'en fait, on est tout le temps dans cette performance-là. On a appris à être éduqué en bon petit garçon, bonne petite fille. Et puis bah, après, il y a comment on s'est... imprégné de tout ça ou comment on s'en est distancié, mais dans tous les cas, quelque part, que ce soit en réaction ou en restant dans l'assignation de genre, on est toujours un peu dans cette performance finalement, et souvent peu de façon consciente. Et du coup, là, quand on est dans la pratique du drag, bah, on se pose les questions de tiens, qui est-ce que j'incarne là et comment je fais pour l'incarner, comment j'exprime ces choses-là, et notamment bah, on se pose la question bah, du look des fringues, voilà comment, à quoi il ressemble mon king, ouais, qu'est-ce qu'il aime porter, comment il le porte, etc. Moi, comment je vis le drag king et ce que ça me permet, notamment ça me fait relier à ça, c'est effectivement quand J'ai découvert le drag king. Ça a été l'occasion pour moi de me réconcilier avec le goût que je peux avoir à me fringuer, à me demander tiens qu'est-ce que je vais porter, etc. Qu'est-ce que je vais j'aime beaucoup ça, me poser cette question-là, me prendre du temps pour moi, prendre la place, le temps de soigner un style, de m'habiller, de me pouponner. Quelque part, c'est quelque chose que j'avais un peu pendant un moment de ma vie mis de côté, comme si voilà, c'était ça venait chercher une part de féminité que voilà, que j'avais besoin de mettre au placard, clairement. Parce que ça m'assignait à un genre, et puis pas qu'à un genre, aussi à des rôles, à une orientation sexuelle, à plein de choses de laquelle j'avais besoin de me distancier. Et du coup, le drag king, là où ce que l'étiquette de Gwyn ou de lesbienne me permettait de me dire ne pas être une femme, notamment, drag king, ça m'a permis de, à ce moment-là, de rendre compatible le fait de me réconcilier avec des choses que j'aime, qu'on relègue plus à la féminité. Ça m'a permis, drag king, de faire le constat de la misogynie intériorisée que j'ai, et puis de la traverser, et puis de évoluer avec ça.
Je veux la retrouver, la féminité au placard, sous les relents misogynie. J'ai dû construire mon histoire, loin du rose et la coquetterie, avec le cadre de la grille, un histoire d'identité.
Le drag, ça me permet de ressentir beaucoup de liberté et de légèreté, notamment à travers le look. Clairement, ça a été l'occasion de faire plein d'essais, d'essayer plein de choses que je me permettrais pas dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Que ce soit les fringues, mais toutes les autres expressions de genre, en fait, c'est hyper contraint, il y a vraiment beaucoup de coercition. Je trouve que ça permet aussi, enfin à moi en tout cas, ça m'a permis d'explorer mon identité sur des éléments de surface tels que les sapes et le look, mais qui permet, par cette approche en surface, quelque part, mais pour moi, ça vient chercher quelque chose de bien plus profond, de venir chercher, moi ça m'a permis de me relier à une quête identitaire liée au genre, notamment, mais pas que, une identité aussi par rapport, c'est intervenu plus tard, mais à la question de la race, parce que, clairement, féminité, masculinité, et si on rajoute par-dessus ça la question de comment on est racisé dans la société dans laquelle on vit ici, pour ma part, en France hexagonale, qui est clairement un espace où la norme, elle est blanche, voilà comment... c'est quoi les normes masculines, féminines, blanches et non blanches, quoi. Bref, voilà, ça pose plein de questions. Donc ça permet d'explorer ça identitairement. Moi, ça m'a sauvé en quelque sorte. Hein. Ça a été le déclencheur de m'autoriser à me demander qui je suis, clairement. Pour ma part, drag king, c'est venu parce que j'ai eu la possibilité participer à un atelier drag king animé par Isabelle Diego Santis à Lyon en 2014. Voilà. Ça fera 10 ans en fait l'année prochaine, ça me permet de faire ce petit constat. Ouais, ce moment a été hyper, hyper fort, hyper marquant pour moi dans mon histoire, quoi. Jusque-là, je suis sortie de cet atelier, c'était une journée avec un accompagnement de réflexion autour de c'est quoi le genre, qui on est, etc. Et puis de faire plein d'essais. De fringues notamment, ça vraiment c'est un moment très chouette et puis qui est important dans son exploration, je trouve, dans les ateliers. Enfin, moi je sais que j'aime beaucoup ce moment-là où on peut essayer de flirter un peu avec tout. Donc voilà, je suis ressortie, j'arrivais plus à retirer ces fringues qui marquaient mon corps, qui j'étais, mon identité, comment j'étais passée. J'étais rentrée dans la rue dans la soirée après l'atelier. Clairement, on me regardait pas de la même manière. Alors, il y avait pas que les fringues, il y avait aussi la manière dont j'occupais l'espace. Il y a comme quelque chose qui s'est débloqué, comme si j'avais eu accès à la deuxième moitié de la boîte à outils, tu sais. Comme si cette deuxième moitié, je croyais qu'elle n'existait pas ou que j'y avais pas accès. Et en fait, c'est comme si j'avais débloqué un niveau, tu sais. Ça m'avait fait télé. Finalement, j'ai appris les codes liés aux féminités et aux masculinités, mais que j'ai appris également à avoir le droit d'utiliser certains et pas d'autres.
France Pédégoin en étendard, reconnecte avec les races. Je fleuris moi tout placard avec rose dans cette cafetière.
Pour moi, le drag king, c'est pour moi, c'est un ancrage politique fort et dans son histoire, dans comment c'est né. En tout cas, il y a un ancrage fort dans les communautés queer du drag king, à un moment où porter moins de 3 vêtements conformes à son genre aux États-Unis, on est arrêtable par les flics. Le drag king ou queen, c'était une résistance à part entière. Et c'était un partage communautaire, de solidarité et puis de kiff, de se faire... de s'apporter de la légèreté, des paillettes dans un monde écrasant. Pour moi, c'est important de remettre un peu des contextes historiques, de dire parler du contexte des années 70-80 aux États-Unis, de parler des premiers ateliers drag king dans les années 90. Moi, ça m'a été raconté. J'avais presque l'impression que c'était un truc de blanc et en fait pas du tout, de connaître des modèles. Comme Stormé de Larverie, qui était une personne qui a permis de déclencher les émeutes de Stonewall à la fin des années 60, qui était une personne non blanche et qui faisait du drag king. Enfin voilà, je sais que ça m'a fait du bien d'avoir ces modèles-là. Et j'ai commencé, c'était en 2014, et jusque 2020, j'avais le drag king comme un outil de plus dans ma vie pour... quand j'allais en soirée ou dans certains moments de la vie, parce que ça me donnait de la force, parce que ça me faisait kiffer, parce que ça me faisait vivre d'autres choses. Il y avait un peu un truc de frontière entre sociabilité, intimité, et puis en 2020, on a été faire une scène ouverte en binôme avec une pote, et puis j'ai découvert la scène. Et alors là, ça a été un autre niveau de kiff, quoi. De porter un message, de s'exprimer, de dire, de clamer un peu, proposer une paire de lunettes par lesquelles regarder le monde, se donner un micro, quoi. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Intime Poétique et par ce biais-là, on organise des ateliers, du coup, plutôt sur Drôme, région côté vallée de la Drôme, quoi. Oui, et du coup, dans les ateliers, il y a la dimension collective que j'apprécie beaucoup avec cette filiation, ce lien aux histoires du drag king et du drag. Et puis, d'être dans ce partage à plusieurs, de se découvrir, de se donner des coups de main et tout ça, de faire vivre ce truc un peu de fais-le toi-même, que faire du drag king et faire sa première moustache dans sa salle de bain, c'est génial, en fait. Enfin, voilà, c'est tout aussi... important pour l'histoire de l'humanité, en fait. Carrément, les grands mots. Mais bref, voilà, c'est vrai que la dimension collective qui est permis parce qu'on se rassemble à plusieurs sur un espace-temps, elle est immense en puissance, quoi. Ça m'a marqué dans la manière dont j'ai découvert le drag king et ça me marque, c'est comme ça que j'ai envie de participer à marquer d'autres personnes quand c'est possible, quoi.
Mama, a star, then you pop that tongue, bitch. This whole club is my runway, run, bitch. Y'all 5, 4, 3, 2s, I'm a one, bitch.
Girl, what did that girl just say, girl? Ooh. Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, 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 and then sashay. Okay. But I don't work for free. No. That's not the tea, hunty. No, so make it rain on me, and I might let you see.
What you gonna let them see?
My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels.
My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels.
Head, shoulders, knees, toes, don't know these hoes. Face, lips, eyes, nose, camera, click, we pose. Beat, mug, limp, wrist, VIP, list, wave, wave, blow a kiss, I'm that bitch, sis. Left, right, left, right, left for the sin, bitch. Where's my sash and crown, cause I win, bitch. I'm so fab, I'm gone with the wind, bitch. Y'all 6, 7, 8, 9s, I'm a 10, bitch.
Girl, what did that girl just say, girl?
Ooh. Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, 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 and then sashay.
Okay.
But I don't work for free.
No.
That's not the tea, hunty.
No,
so make it rain on me, and I might let you see.
What you gonna let them see?
My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels.
My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels.
Okay, dolls, y'all know what time it is. Come on. Everybody on the floor, everybody on the floor. Now I want you to stretch out those arms, stretch out those legs, stretch out that wrist, stretch out that weave. I don't want to see you dance, I want to see you work. Come on, drop for me, drop for me, drop, drop for me, drop for me, drop, drop for me, drop for me, drop, drop for me, drop for me, drop. Tongue pop for me, pop for me, pop tongue pop for me, pop for me, pop tongue pop for me, pop for me, pop tongue pop for me, pop for me, pop. Pose for me, pose for me, pose, pose for me, pose for me, pose, pose for me, pose for me, pose, pose for me, pose for me, pose. Then blink for these hoes, blink for these hoes, blink for these hoes, blink for these hoes. 12 for me, 12 for me, 12, 12 for me, 12 for me, 12, 12 for me, 12 for me, 12, 12 for me, 12 for me, 12. Say girl for me, girl for me. 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 Now snap for me, snap for me, snap, snap for me, snap for me, snap, snap for me, snap for me, snap, snap for me, snap for me, snap. Now clap for me, clap for me, clap, clap for me, clap for me, clap, clap for me, clap for me, clap, clap for me, clap for me, clap. Give trade for me, trade for me, trade, trade for me, trade for me, trade, trade for me, trade for me, trade, trade for me, trade for me, trade. Those shade for me, shade for me, shade, shade for me, shade for me, shade. Those shade for me, shade for me, shade, shade for me, shade for me, shade. Now fan for me, fan for me, fan, fan for me, fan for me, fan, fan for me, fan for me, fan, fan for me, fan for me, fan. Shablam for me, shablam for me, shablam, shablam for me, shablam for me, shablam, shablam for me, shablam for me, shablam, shablam for me, shablam for me, shablam. That's all.
Alors, on vient d'écouter Nails, Hair, Hips, Heels de Todrick Hall. Je sais pas vous, mais moi, j'adore cette chanson. Et je vous conseille fort d'aller voir, d'aller découvrir le clip en ligne. C'est incroyable. Voilà, ça date de 2019 et ça veut dire littéralement ongles, cheveux, hanches, talons. Tout est dit en regardant la choré incroyable de ce clip. Et vous êtes toujours dans l'éclat des noctules, dans cette émission consacrée au look et au sap sur Radio Royan.
Et tout de suite, on écoute Zef, qui est couturière, entre autres, et qui habite dans le coin.
Alors du coup, comment je suis arrivée à avoir envie de faire de la couture? Eh ben déjà, il y a ma grand-mère qui a toujours fait de la couture, qui me faisait tout plein de robes quand j'étais petite et tout ça. Du coup, j'avais un peu envie d'avoir sa transmission d'infos un peu.
Carrément.
Du coup, j'ai commencé à aller faire une formation en couture et pour aussi renforcer le lien avec ma grand-mère et pouvoir parler autour de cette pratique et d'avoir du temps avec elle de faire. Et aussi parce que moi j'ai des rondeurs et il y a toujours eu un truc qui a fait que à chaque fois que je vais dans les magasins, je suis jamais contente ou je ressors, je suis pas bien.
Ouais.
Parce que j'ai jamais la bonne taille, j'ai toujours plein d'idées de créations hyper folles, de comment j'aimerais me saper et tout ça. Et en fait, quand je vais dans les magasins, rien me va. en fait, où je ressors, je suis vraiment mal à l'aise, quoi. Et du coup, je m'étais dit, ben tiens, en fait, je vais commencer à me faire des fringues, en fait, pour moi, ou alors apprendre, en tout cas, à les modifier, à faire en sorte que je puisse rentrer dans un pantalon, à lui rajouter des bouts de tissu, ou à prendre plus large et faire plus adapté à ma morphologie, en fait. Mmh. Parce que je trouvais pas en magasin quelque chose qui me correspondait, quoi. Il y avait un peu de ça. Avoir envie de fringues non genrées, en tout cas d'avoir une attention à essayer de faire ça, de triper. Mmh. Mmh. De triper sur faire des robes avec des bouts de costard ou des choses comme ça, un petit peu très, très mélangées dans le genre. Et ouais, voilà, je pense que c'était un peu quelque chose comme ça aussi. Comment se sentir jolie en détachant aussi le fait qu'il y a des tailles qui ont été normalisées. Et que toi, ce qu'on disait, on se disait aussi le tu vas en Allemagne. En Allemagne, ton 38, c'est un 36. Donc tu perds une taille. Et non, stress que rien que l'aspect psychologique de ça. Enfin, tu t'es vachement brimé sur ça depuis toujours, quoi. Ouais, et puis parfois, en fait, parfois aussi, tu vois qu'il n'y a pas les modèles. Et en fait, on est quand même beaucoup à porter du L, sincèrement. Mmh. Et du coup, c'est des tailles qui partent hyper vite. Et celles qui restent les plus souvent, c'est des XS, quoi.
Ouais.
Et après, dans la couture, c'est aussi vachement plus à des moments difficiles de rajouter du tissu, donc d'augmenter une taille,
okay,
que de la raccourcir.
Okay.
Donc, faut quand même que tu puisses avoir un pantalon qui est hyper large pour pouvoir le modifier à ta sauce en fonction du choix des tissus. Enfin, il y a vraiment plein de choses à prendre en considération par rapport à une morphologie aussi et comment tu veux que ça taille ou pas. Et mais ouais, ouais.
Mais c'est vrai que la couture, c'est une pratique qui était hyper normale,
ouais,
enfin hyper partagée, que plein de gens savaient coudre. Et c'est vrai, grave, que ça s'est un peu perdu, quoi. C'est devenu, ouais, ouais, quelque chose qui est moins courant.
Et ça revient, j'ai l'impression qu'il y a un peu des trucs qui reviennent aussi, parce que tu vois le nombre de tutos qu'il y a pour apprendre à faire des choses et des choses. Moi, je sais que ma grand-mère a toujours fait de la couture, mais ma mère, par contre, a eu en horreur ça. Mmh. Mais par contre, a aussi subi ces choses-là d'avoir des fringues dans lesquelles elle est jamais confortable réellement. Parce que même si tu prends la bonne taille, ben, tu vois, il y a toujours soit le bidou qui est un peu serré, le bourrelet que t'as pas forcément envie de montrer ou que t'as envie de montrer. Et en fait, t'es pas confort. Quel type de tissu j'aime? Quel type de tissu vont faire en sorte que je me sente à l'aise? Moi, j'ai vraiment des sensibilités à certains types de tissus. Ben là, l'histoire de la mode, et encore, j'ai pas tous les aboutissants non plus, parce que je pense que c'est des recherches, et encore, toutes n'ont pas été faites, et par quel biais aussi tu abordes ces recherches-là. Moi, je crois que c'était sur un biais un peu féministe aussi, parce qu'on entend beaucoup parler que la mode a évolué en fonction de l'émancipation des femmes.
Ouais.
Il y a de ça, mais il y a aussi... La mode, à un moment donné, est devenue industrielle. Du coup, des grandes marques se sont aussi emparées des choses et parfois ont retourné les trucs. Et je crois qu'il y a un truc qui est vraiment... c'est un peu... l'histoire de la mode, elle est chaotique si tu pars du principe de l'émancipation des femmes. Donc, tu fais des recherches de l'histoire de la mode, tu vas avoir un peu plus d'accès à comment la bourgeoisie, l'aristocratie s'habillait, finalement.
Ouais.
C'était elle, plus ou moins, qui définissait les modes. Ouais, l'histoire de la mode est très liée aussi à la commercialisation, à l'industrie. Aussi, il y a des trucs de guerre aussi, qui a aussi beaucoup joué sur est-ce qu'on a des capacités d'avoir ces tissus-là. Du coup, comment les modes, elles s'adaptent. Et du coup, la mode, elle est vraiment genre dans deux tranchants. À la fois, elle s'adapte aux besoins, mais elle en crée aussi. Et qui en crée? Beaucoup, ça a été beaucoup des couturiers hommes, alors que c'était un savoir-faire assez féminin. Et par exemple, les robes au XVIIIe siècle, là, donc ça devait être très bouffant. Très bouffant. Donc c'était des grandes robes, c'était des tissus hyper lourds. Du coup, c'était le moment là, la mode, c'était la silhouette en forme de A, fin en haut et plus bouffant en bas. La crinoline, c'était des jupons qu'on avait rigidifiés par du crin de cheval. Et du coup, dedans, on venait faire comme une cage avec de l'osier. Ça, c'était parce qu'elle portait des jupons. Et les jupons, des fois, ils faisaient des surcouches. C'était un truc de noblesse, mais il y avait quelque chose derrière pour aussi cacher les formes. C'était pour avoir un standard d'un corps. Puis après, bon, il y avait aussi plus, tu avais de jupons ou un beau châle avec certaines couleurs, machin. Plus tu avais aussi des sous, en fait. Il y avait cette notion-là aussi, ouais, de ce que je porte témoigne de ma richesse.
Ouais.
Et même tout début, la sensualité la plus jolie, c'était quand tu pouvais montrer juste ta cheville. Mais ça s'arrêtait à là, tu vois, à la cheville. Et donc la crinoline, il y a des caricatures de ça. Parce que du coup, c'était lourd, ça rendait les démarches hyper compliquées, fatigantes pour le corps. Et par la suite, ils ont commencé à faire des cages en métal aussi. La crinoline, à la fin, elle est devenue en métal. Mais du coup, la personne ne pouvait pas s'asseoir, monter dans des calèches ou quoi, c'était énormément compliqué. Elle ne voyait pas le bout de leurs pieds.
Ouais.
Donc, il y avait des notions d'équilibre. C'était un petit peu la folie. C'était toute une mise en scène, quoi. Elles avaient des grandes baguettes pour pouvoir glisser le jupon en dessous de la crinoline. Ça allait hyper loin. C'est resté quand même tout jusqu'au 19e siècle. La structure, elle a bougé. Donc, ils l'ont rendu plus légère ou plus souple, etc., etc. Du coup, le bas était vraiment caché, puis le haut, grand décolleté. Mais le décolleté, c'était qu'à certains moments. Tu pouvais pas afficher tout le temps décolleté. C'était plutôt en soirée. C'était pas non plus dans la journée. La tenue, elle devait s'adapter. Mais il faut imaginer la vie de ces femmes à ce moment-là, quoi. Elles se faisaient habiller pendant des heures. Je crois qu'il y avait une histoire sur l'un des créateurs de la crinoline qui demandait l'exclusivité pour habiller les femmes lui-même. Il fallait qu'il soit présent. Du coup, il y avait vraiment quelque chose comme ça, là, de l'ordre de cacher le corps des femmes, surtout le côté un peu flasque, la peau, faut que ça soit caché, tout ça.
Ouais, mais du coup, ça fait un truc de chosifié, de ouf.
Ah, mais complètement. Ben, dans la vie quotidienne des femmes, on pouvait pas les approcher. On pouvait pas les approcher parce que t'avais vraiment une distanciation. C'est vraiment un outil de distanciation hyper fort.
Ouais.
On pouvait moins se prendre dans les bras. Il y a beaucoup d'artistes, oui, peintres qui ont fait des caricatures à ce moment-là de qu'est-ce que c'était porter une crinoline et comment la femme, on la met à distance de tout ça. C'est un peu la poupée qu'on va habiller déjà, qu'on va créer son petit truc. Et en plus, on peut pas s'approcher d'elle parce qu'elle a vraiment une superficie énorme.
Et puis du coup, quand tu dis la femme, ça me fait penser à ça, au fait que c'est pas un être vivant qui a des caractéristiques.
Ah bah, ouais, non, non.
Et tout ça, c'est...
On veut les mêmes caractéristiques pour toutes. Et de toute façon, enfin, il y a vraiment quelque chose de mettre à distance, en tout cas. Quoi d'autre aussi? Comme plein de vestes dans lesquelles, en fait, il n'y avait pas des poches.
Oui.
Il y avait pas de poche parce qu'on supposait qu'une femme n'avait pas de portefeuille et devait avoir un sac à main plutôt.
Elles n'avaient pas besoin d'outils.
Elles n'avaient pas besoin d'outils. Elles n'avaient pas besoin. Elles n'avaient pas accès à de l'argent en dehors de leur relation, de leur mari. Et du coup, on n'a pas du tout pensé à faire des poches. Soit dans les années 30-40, il y a eu plein de... Moi, m'avait dit ça, de... Tu sais que... alors, on passait d'un truc où les robes, les décolletés étaient droits, et les robes, elles étaient très longues. Très longues, avec souvent un petit bandeau, un petit ceinturon. La poitrine est marquée, pas de manière exagérée, parce que le décolleté est droit, et la traîne, là, vraiment, le reste de la robe est très longue. Et c'est donc à peu près au moment de la guerre, ou un peu après, dans la Seconde Guerre mondiale, les robes ont commencé à se raccourcir. Donc on disait, et sans doute qu'il y a des deux, hein, c'était l'émancipation des femmes, comme les femmes, du coup, elles travaillaient aux usines et tout, et même dans les champs, ben voilà, ça commençait, il fallait que ça soit un peu plus pratique, donc on raccourcissait. Mais il y a aussi une réalité économique, c'est qu'à ce moment-là, l'accès aux tissus et les commerces, la commercialisation des tissus était moindre. Et la production aussi. Du coup, on avait moins de matière pour créer des vêtements.
Donc, ça a accepté que ça arrangeait.
Voilà. Et après, dans les années 50, bam, ça redevient un peu long, tu vois. Ça redevient un peu long aussi. Et voilà. Après, il y avait encore un autre truc aussi, pour encore montrer que la mode, à la fois, elle peut être un outil qui permet d'émanciper, mais aussi un outil qui permet de restigmatiser, de réenfermer, de stéréotyper. C'est l'histoire de la mini-jupe, quand même. La mini-jupe, dans les années 60, qui a été créée à Londres. Et du coup, la mini-jupe, elle avait un truc de, les féministes l'ont prôné comme tu as un peu une volonté de pouvoir en fait montrer son corps, de se réapproprier ça, de se réapproprier son plaisir aussi et de sensualité, etc. Et qu'en fait au fil du temps, ben tu vois la mini jupe, elle a été aussi extrapolée, détournée, car il y a eu un truc de, par les pubs, etc., de résexualisation hyper forte de qu'est-ce que portait la mini jupe. Et je sais pas toi, mais moi à plein de moments donnés, j'avais trop envie de porter une mini jupe, mais je me sentais pas par rapport au regard que les hommes pourraient avoir sur moi de porter une mini jupe. Tu vois,
c'est
vraiment ce truc là de, ça a été un élément de libération dès qu'elles ont pu commencer à avoir des mini-jupes, qu'il y ait de la production de mini-jupes, mais aussi après un truc de très vite, ça va être direct repris par un désir masculin ou des choses où il faudrait que... Et pour moi, la mode, elle est un peu marquée de ça. On a habillé les femmes pour les rendre désirables, pour les rendre belles. Ça voudrait dire que toi, tu ne t'habilles pas comme les standards, tu ne serais pas beau, tu ne serais pas belle. Et ça, tu vois, je pense que... l'industrialisation de la mode, il fallait aller vite, standardiser des silhouettes, des formes, et en plus, ce qui est tragique là-dedans, c'est que toi, du coup, ton corps, tu veux le standardiser à ces normes-là.
Il devait y avoir une époque où tout le monde, où les fringues n'étaient pas genrées. Enfin, tu vois, souvent, on dit que c'est à la fin du Moyen-Âge qu'il y a eu la capitalisation, enfin, le capitalisme qui est apparu, et du coup, le rapport au contrôle du corps des femmes, des personnes assignées meufs, et que du coup, avant ça, les corps des métiers étaient beaucoup plus répartis, étaient beaucoup moins genrés, et du coup, la tenue adaptée à ton métier était beaucoup moins, déterminait beaucoup moins ton genre, parce que les rôles étaient beaucoup moins répartis en fonction des genres, quoi.
Ouais, carrément.
Et donc, et j'imagine qu'à un moment donné, on devait avoir des grandes robes, tu sais, des sortes de grandes toges, enfin, je sais pas, tu vois, des trucs un peu pratiques pour.
Sans doute. Et qu'est-ce qu'on a de l'histoire, en fait? Quelle représentation de l'histoire? On a souvent plus de toiles des aristocrates, des rois et des reines, que dans le milieu, tu vois, prol ou...
Ouais, mais les pharaons portaient des mini-jupes.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est clair, c'est vrai. Même les Grecs, à un moment donné, c'était très fluide. Grave, c'était juste des drapés, en fait. C'était juste des drapés. Et du coup, là, sans doute... qu'il y avait beaucoup moins de différenciation de genre dans les habillements. Puis même avant, il n'y avait pas autant de tissus. Donc en fait, dès l'instant que je parle de la mode, malheureusement, je tombe aussi dans des trucs très genrés. Donc je dis très souvent femme, très souvent homme. Et pour moi, c'est vraiment pas ça. Voilà. J'ai encore pas rencontré de patron non genré. Et là, on arrive sur l'aspect capitaliste de la mode... de la fast fashion. Il y a eu un moment donné où Zara et H&M, dans la mouvance MeToo féministe, ils ont commencé à faire des t-shirts avec des slogans clairement féministes pour un truc un peu body positif et tout ça. Et en fait, quand tu regardes ces deux plus grandes marques, en fait, la plupart de leurs productions sont faites au Bangladesh ou en Chine. Et en fait, c'est des travailleurs assignés femmes qui travaillent là et qui sont exploités. Leur salaire moyen, il est, je crois, au Bangladesh, c'est 93 euros de salaire moyen. Et en Chine, c'est 280 euros, tu vois. Et quand même, la mode, c'est l'industrie, la troisième industrie la plus polluante au monde.
Je me souviens seulement qu'elle t'allait ravir. On ne devinait rien et surtout pas l'avenir. On ne se doutait pas à sa belle couleur entre les mèches brunes aux reflets de pudeur que c'était un couperet qui pesait sur ta nuque, ta perruque. Peut-être aurais-je aimé que ce soit à l'envers, à moi le grand trou noir et à toi le désert, à toi les lendemains sur des sables mouvants. Le sentiment coupable de n'être que vivant, à moi comme une insulte, la pitié qui reluque, un matin j'oublierai d'avoir les larmes aux yeux, je me réveillerai de ce long deuil sans Dieu, je me consolerai avec le temps qui passe, le vent qui désapprend et la mer qui efface ton regard, ton visage et tout aussi. Ta perruque. De toi je ne voulais rien et je n'ai rien gardé. Ce n'est que dans le cœur qu'on dresse les mausolées. Pourtant je sais déjà le sale coup de poignard quand je retrouverai. Pauvre relique parmi mille autres trucs, ta perruque.
C'était la grande chanteuse, parolière et compositrice Juliette Noureddine avec sa chanson qui s'appelle La Perruque.
Et pour continuer cette émission, moi j'avais envie de réfléchir à cette question de l'apparence et du look dans les milieux qu'on traverse. Comment on s'habille en fonction de qui on va voir dans sa journée, dans quel endroit on va naviguer. Je me demandais quelles sont nos stratégies avec tout ça, parce que ça peut paraître futile, mais en fait, ça dit pas mal de choses de nous, de ce qu'on veut donner à voir en fonction de là où on est. Ça parle d'appartenance, de communauté, d'identification, d'assignation. Ça a été dit là plusieurs fois dans l'émission, mais c'est comme une performance du quotidien. C'est finalement hyper intime, cette question, et peut-être même tabou, parce que en fait, on joue tous avec des stratégies dans notre esprit, mais sans forcément les révéler. Et moi, je me suis dit que j'aurais envie d'aller... ce serait comme aller ouvrir des petites portes dans la tête des gens pour voir comment tout le monde se démerde avec ça. Et puis bon, à chaque fois, comme à chaque fois que je dois préparer quelque chose pour les noctules, j'y pense, j'en cause, je tâte le terrain à droite à gauche. Et au détour d'une conversation en festival, une connaissance radiophonique, merci à toi, me parle de cet article paru dans Manifesto 21 en juin 2022, intitulé « Les queers ont un problème avec le capital beauté, il est temps d'en parler ». Ça a été écrit par Constanza Spina. Le titre évocateur et puis la description que m'en fait cette personne me donne envie d'aller voir plus près. Bon, alors après, c'est toujours délicat de résumer un article et je vous propose quand même quelques citations qui m'ont touchée et je vous invite à aller le consulter en ligne directement. Donc derrière ce titre, je découvre que des ressentis et des réflexions que j'ai pu avoir seule ou avec quelques autres personnes sur les codes implicites dans nos milieux militants, féministes et queer peuvent être partagées par d'autres. C'est la première fois que je lis ce type de réflexion dans un média public. Et il part du constat que l'un des principaux axes de lutte des milieux féministes depuis des décennies, c'est justement de dénoncer les normes de beauté qui pèsent sur nos corps, créé par le patriarcat et le capitalisme. Les normes de minceur, la peau imberbe et lisse, l'impératif de « féminité », entre guillemets, des vêtements, tout en veillant à ne pas tomber dans le vulgaire et le provoque, comme le disent certains réacs. Donc nous sommes donc beaucoup à nous batailler avec ces injonctions, perdant parfois le repère de ce que nous sommes et de ce que nous aimons. Quelle que soit notre orientation sexuelle ou notre identité de genre, nous avons et nous savons comment ces injonctions pèsent sur nous et insidieusement sur ce qui nous plaît chez nous et chez les autres. Donc on pourrait croire que les féministes qui peuplent le milieu militant auraient pulvérisé tout ça depuis belle lurette. Mais, spoiler alerte, la mochophobie n'épargne nullement le royaume pailleté des licornes militantes. C'est pourtant facile d'opposer le monde queer au monde hétéronormé. On se complimente souvent de combien les queers sont débarrassés de toute cette norme de beauté oppressante et d'à quel point dans nos communautés on est déconstruit, déconstruite. Pourtant, on va le voir, des enjeux autour de ces normes de beauté irriguent les espaces et les relations. Alors je me suis demandé si finalement, au lieu de nous lâcher le slip et de permettre au plus grand nombre d'être bien dans ses baskets ou dans ses tongs à paillettes, est-ce que le milieu militant n'a pas recréé d'autres normes tout aussi oppressives ? L'intro de cet article de Manifesto 21 annonce la couleur. Le capital beauté instaure cette hiérarchie de normes physiques et celle-ci permet d'accéder à toute une série de privilèges, parmi lesquels celui d'organiser les espaces et de dicter les règles de la séduction, au détriment de l'intérêt du plus grand nombre. C'est cache-pistache. Donc s'ensuit une réflexion sur l'identité queer. Par exemple, est-ce qu'être gros ou grosse ou invalide, c'est être queer ? À cette question, l'autrice répond que selon elle, les personnes grosses et invalides sont queer parce qu'elles le sont au sens littéral du mot. Et pour appuyer son argumentaire, elle cite la formule empruntée à Judith Butler « est queer ce qui déchire la normalité ». Son queer, ses corps empêchés, mutilés, considérés comme non humains et ses vies non dignes d'être vécues en raison de leur déviance. Ça, c'est la théorie. Et moi, je me retrouve bien dans cette définition. Mais qu'en est-il dans la pratique ? L'article y rappelle qu'au commencement du queer, il y a le moche. Avant Twitch et Instagram, il y avait des corps. Et en dehors de Twitch et d'Instagram, eh ben, il y a encore des corps. On se rappelle bien évidemment de la formule de Virginie Despentes dans les premières pages de King Kong Theory. J'écris de chez les moches, pour les moches, les frigides, les mal baisés, les imbaisables, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Je sais pas vous, mais moi, cette formule m'accompagne depuis des années, depuis que je l'ai découverte. Cet insipide de King Kong Theory est une bonne définition de la queerness. On pourrait alors utiliser le terme moche selon l'usage que Virginie Despentes en fait, comme une provocation, un retournement de stigmates. Et bien sûr, quand nous parlons de capital beauté, nous parlons de, en réalité de capital normatif. Utiliser le mot beauté permet simplement de montrer le glissement habile que la culture occidentale a opéré pour qu'une certaine norme se confonde indissolublement avec l'idée de beauté. Sur cette idée, certaines répliqueront que tout le monde peut se sentir moche. C'est vrai, la plupart des gens, surtout si minorisés, se sont sentis moches dans leur vie. Mais le féminisme du ressenti n'est d'aucune aide ici, étant donné que le corps est une matérialité, une existence. Certains corps disposent d'un plus grand capital normatif que d'autres. C'est une réalité objective et matérielle. À partir de là, on peut simplement se dire que les queers font partie d'un tout social. Les rapports de force liés à la norme physique perdurent dans nos sphères. Et l'autrice soulève qu'aborder ce sujet avec franchise permettra à nos communautés de progresser dans leurs réflexions pour que collectivement on se dirige vers des modes de vie réellement inclusifs et anticapitalistes. Une question directement en lien avec ça, c'est la marchandisation du queer et la réappropriation des codes queer et même du capital queer, entre guillemets. On en arrive à des paradoxes où des personnes parfaitement hétéro et cis se fondent dans la masse parce qu'elles ont appris à sembler encore plus queer que les queers. Et en forçant un peu le trait, on peut même se demander si dans notre communauté, est-ce qu'avoir l'air queer devient plus important que d'être queer ? Au-delà de la large question de se sentir bien dans la communauté et dans les espaces quand on y navigue, vient se mêler une autre question directement liée aux normes de beauté, celle du marché amoureux et des dynamiques de séduction. Bon, alors évidemment, tout le monde ne souhaite pas participer à ce grand marché de la séduction, ça c'est une chose. Mais pour celles qui le souhaitent, il est important de prendre en compte ces implicites de normes de beauté, en espérant que de moins en moins parmi nous se sentent dévalués par le marché amoureux. Alors c'est pas un scoop de dire qu'il existe une subtile hiérarchie des normes dans les dynamiques d'amour et de séduction dans le milieu queer, comme partout ailleurs. Et c'est intéressant, ou plutôt grandement nécessaire, de soulever cet implicite qui règne. D'ailleurs, dans l'article, il y a plusieurs témoignages à ce sujet. Il y en a un qui dit « Le capital beauté permet de disposer de toute une série de privilèges, y compris celui de fixer les injonctions quant à la bonne manière d'aborder la séduction. » Alors oui, le sexe et la fête sont des endroits importants dans nos dynamiques de lutte, peuvent être réparateurs, émancipateurs, joyeux, légers. Mais lorsque ces domaines sont récupérés par les logiques marchandes de conquête, de narcissisme, de possession et de manipulation de l'autre, ils deviennent dangereux et vecteurs de rapports de pouvoir. Et les milieux queer sont pénétrés par ces logiques. Ce sont alors encore celles et ceux les plus à l'aise avec leur corps et les moins menacés qui fixent la manière de vivre le désir à tout un groupe. Bon, sur tout ça, c'est beaucoup plus long dans l'article et je vous invite à aller le consulter. Et dans la dernière partie de l'article, l'autrice propose des prises de responsabilité collectives sur ces questions. Et cela passe évidemment par des prises de conscience. On peut être une personne LGBTQIA+, et avoir un passing physique qui préserve de certaines formes de violence, voire de bénéficier de nombreuses formes d'approbation. De ces avantages normatifs, nous devons être conscients-conscientes. Quand nous rentrons dans un espace queer, quand nous relationnons avec d'autres corps. Nous devons connaître notre minceur, notre blanchité, notre bonne santé, notre straight passing. Oui, les espaces queer sont destinés en priorité à celles qu'Hété Roland a rejetées physiquement. Nos luttes se doivent d'être très concrètes, car il en va de l'existence même de nos corps. Et elle conclut par « La révolution commencera quand être queer ne sera pas une performance, un exploit sexuel, un bingo des privilèges et des oppressions, ou une injonction à désirer à tout prix, mais une façon de regarder le monde. » Voilà, moi je suis curieuse de poursuivre la réflexion avec celles et ceux qui ont envie.
On continue.
Maintenant, l'instant devinette. Pour commencer, je suis le point commun entre cette chanson, Mylène Farmer, le football, le gouvernement iranien, le département de la Creuse, David Bowie, les Vikings et les coups de soleil. Qui suis-je ? Si vous ne voyez pas le rapport, je continue. Je porte le nom d'un poisson qui a donné son nom à une insulte anglophone qui signifie stupide, qui a inspiré une chanson de ce trio pas très féministe, et qui donc, selon des sources peu fiables, m'aurait baptisé. C'est pas très clair ? Allez, je vous donne un indice. Je suis une coupe de cheveux. Je suis à la mode dans les années 70, notamment grâce à David Bowie. Je me démocratise dans les années 80, parce que je suis portée par plein de footballeurs notamment. Dans les années 90, je deviens ringarde, limite humoristique. Jusqu'en 2020. Et pourquoi 2020 ? Parce qu'il paraîtrait, selon des sources peu fiables, encore une fois, que le confinement, enfin les confinements, m'ont remis le vent en poupe. Vous l'avez ? Allez, encore une. On m'appelle aussi en français la coupe Cambronne, la coupe Coco, la coupe Longueuil, la Muquette, la coupe Flémal ou encore la nuque à l'allemande. Bon, je vous donne la réponse. Je suis la charmante, l'originale, la désuète mais néanmoins tendance, coupe mulet. Et si cette coupe vous intrigue, sachez qu'il y a dorénavant des concours dans le monde entier pour décerner un prix à la meilleure des coupes mulets. Sauf en Iran, où celle-ci a été interdite car jugée trop décadente. Alors, avec toutes ces informations, vous aussi vous voulez rejoindre le groupe de plus en plus étendu des porteurs et des porteuses de mulets ? Rejoignez-nous ! En plus, il y a plein de styles de mulets. Et ça, c'est la porte ouverte à toute notre imagination.
C'était Léon sur la chanson des Mullet Head des Beastie Boys. Et alors voilà, il y avait des petits éléments à rajouter. Juste le mulet, ça vient peut-être justement de cette chanson. Et petite précision à propos du poisson, le fameux poisson, c'est donc le mulet qui a une tête plate. Et du coup, l'insulte anglophone qui vient de là, c'est mulet head, pour dire tête plate. Donc t'es stupide, quoi. Donc question validisme et tête platophobie, c'est pas le top, mais voilà.
Et pour continuer, sans transition, avec entre la coupe mulet et la vestiboutique, on est allé interviewer les personnes, les bénévoles de cette boutique de la Croix-Rouge, ici à Saint-Jean-en-Royon.
Il y avait ma jupe culotte que j'ai portée longtemps. On m'appelait l'échalote tellement je flottais dedans. Ma petitesse de l'époque me donnait des tourments. Et parmi mes vêtements...
Tous ces cartons ?
Ouais.
Eh bien, ce sont du stock. Ce sont des vêtements country qu'on ne va pas utiliser tout de suite. Et donc, on les met dans des cartons, on les met de côté et on les sort par saison. Tout à fait.
Vous avez trié ce matin des vêtements qui arrivent d'où ?
En fait, ce sont les gens qui les déposent. Ils les mettent dans les bornes où ils viennent nous les déposer le mercredi matin. Je sais pas, de 9h à 10h, je crois, ou 10h30. Et quand on ouvre, on les trouve. Les plus courageuses de nous arrivent vers 7h, 7h30. Et puis, on garde un moment pour faire du rangement. Parce que comme on partage avec les Restos du Cœur...
Et vous êtes que des bénévoles ici à faire ça ?
Oui, que des bénévoles, mais ça prend du temps. Mmh. Oui.
Alors, on manque de bénévoles, on me dit dans mon oreillette.
Surtout au tri, plus au tri.
Pour pouvoir vendre à la vestiboutique, il faut d'abord passer par le tri pour se rendre compte un petit peu des choses. Et puis pour la boutique, il faut être sûr d'être présent. Donc on a un calendrier sur le net, et il faut s'inscrire et être sûr d'être là.
Il y avait le gilet moulant, avec des manches trois quarts. Avec des boutons blancs.
Patricia Chicot, je suis à la Croix-Rouge depuis 5 ans. Voilà, le plus important, effectivement, c'est de trier. Et on a énormément, énormément de choses. On est débordé par moments. Et puis, c'est vrai que c'est un peu triste de voir toutes ces choses qu'on revend au poids.
Et après, c'est quoi le chemin de la chaîne du vêtement ? Comment ça se passe ?
Alors, bien sûr, il y a la Croix-Rouge. Le plus important, c'est quand même le relais. Hein. Le relais, c'est Emmaüs aussi. Donc, pour nous, à la Croix-Rouge, donc, on a plusieurs containers un petit peu partout. Donc, les gens, effectivement, achètent beaucoup. Et quelques-uns mettent dans nos containers à nous, qui sont Croix-Rouge Vercors-Royan. Donc il y en a Intermarché à Saint-Jean, mais il y en a ailleurs. Donc après, on a une équipe qui nous récupère tous ces sacs, qui nous les amène ici et on fait le tri. Alors après, tout ce qui est vraiment en très très bon état, voire neuf, puisqu'on a aussi des articles neufs, donc on les trie, on les range et on les revend à la boutique ou lors de braderies qu'on fait... on va dire deux fois par an. Et puis après, tout le reste, ben, c'est revendu au poids. Donc après, le circuit exact, je ne sais pas. C'est quelqu'un de Saint-Donat. Je pense qu'après, ces produits-là, la plupart du temps, partent vers la Belgique. Et là, ils sont souvent compressés. Et puis, ils prennent le bateau pour d'autres pays qui acceptent nos déchets. Voilà. Ben, l'industrie du textile est très envahissante, très polluante. Et je pense que la plupart des choses, des habits, se terminent sur des plages ou enterrés. Ça veut dire que les vêtements font des circuits énormes, sachant que beaucoup de vêtements sont faits au Bangladesh ou en Inde ou en Chine, même des habits de marque. Donc ils font le voyage vers chez nous, ils sont des fois revendus à des prix très très bas. On peut trouver des articles à 1, 2, 3 euros. Et puis ensuite, ce qui n'est pas gardé, ça reprend d'autres chemins. Donc on va dire que c'est hyper polluant en termes de transport, mais de fabrication aussi. Et puis tout le reste, quoi. Bon, il n'y a pas vraiment de principe de recyclage en France. Il y a quelques toutes petites usines, mais dans ce cas, il faudrait trier encore plus les produits et pouvoir les acheminer, ce qui ne nous est pas possible. Donc il y a une réflexion qui serait nationale à mener et une réflexion personnelle sur l'achat de vêtements neufs. Les gens, je pense, achètent trop, à des prix très très bas, des produits qui viennent de très très loin, donc il y a quelque chose qui ne va pas, quoi.
Il y avait ma salopette que j'aimais comme une folle et qu'il a fallu qu'on jette à cause d'une tache de colle à côté de mes jaquettes.
Il y avait des pépés. Il pose la question s'il y a beaucoup de cartons. Mais...
Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup ?
Ils ont beaucoup trié ce matin. Ouais,
ah oui, en triant, de toute façon, on voit qu'il y a plein de choses et on a aussi des habits neufs.
Est-ce que toi, tu aurais des idées de comment revaloriser ces habits sur place ?
Alors, le problème, déjà, c'est qu'il faut des bras. Donc, ça veut dire qu'on est déjà, on est quand même pas mal de bénévoles, mais il faut des bras. Et le problème, c'est qu'en France, il n'y a pas vraiment de possibilité de faire vraiment des choses intéressantes, sauf vous, ce que j'ai dit tout à l'heure, sur des choses toutes petites, c'est-à-dire des jeans. Mais par exemple, les jeans, je crois qu'il y a une usine à Lyon, mais il faut que ce soit un jean sans élastase, donc c'est très compliqué. Et en plus, il faudrait pouvoir l'acheminer, et nous, on ne peut pas faire ça. Il faudrait que l'État s'occupe de ça. C'est à l'État de prendre en charge ces choses-là, comme pour le papier ou pour le verre. Parce que je pense que le papier et le verre, c'est plus ancien. Le vêtement, vraiment la mode fashion, qui a fait que les choses se sont vendues très peu cher et les gens achètent beaucoup, du coup, multiplient leurs achats. Je pense que c'est encore trop tôt pour l'État de s'engager. Je ne sais pas s'il y a une réflexion qui est vraiment menée au niveau national. Moi, je ne sais pas quelle est la volonté des politiques. Elle n'est quand même pas non plus très écologique en général. Donc, je pense que pour le moment, on en reste là, quoi.
Donc on est plutôt sur des gestes individuels de réduction de consommation de vêtements qu'une politique globale, quoi.
On est toujours sur la même idée, c'est-à-dire qu'un déchet, le meilleur des déchets, c'est celui que vous ne faites pas. Donc que ce soit dans le textile, mais dans d'autres choses, les emballages, tout le reste, je pense qu'il faut, voilà, il faudrait commencer à baisser un peu toute cette folie d'achat qui nous mène nulle part. Voilà.
Les culottes grises, qui étaient les culottes de ma sœur, qu'elle avait eues de ma tante Denise, et qu'elles avaient changé de couleur, tellement les avait portées Louise.
Moi, ça me plaît, j'aime bien, l'équipe est super agréable, on est fatigué, mais on rigole bien, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, et surtout n'hésitez pas à passer à la boutique, parce qu'on a énormément de stock, et plus on vendra, et mieux ce sera. Voilà, merci.
Merci Patricia.
Avec le rouge et le bleu marin, et que des chemises bleues j'en avais plein, et que j'en veux encore à maman qui me les faisait porter tout le temps. Ces invincibles culottes grises qui même aujourd'hui sur photo me déguisent et m'immortalisent avec des allures de chicot. Ces extensibles culottes grises qui ne finissaient plus de me faire et même de m'aller comme un gant, comme un de ces gants.
Voilà, c'était le petit reportage à la Vestiboutique. Merci d'ailleurs à la Vestiboutique de nous donner plein de vêtements pour faire de la sérigraphie de Noctule et répandre dans le monde les Noctules. Et voilà, c'était une chanson de Linda Lemay.
C'est la fin de cette émission. Alors, on a plein de merci à faire. Merci à Bambi, à Zef, à Hans, à Léon, à Mathilde, à Sab, à Gaëlle, à Esther et à Patricia. On termine l'émission sur des blagues et un petit extrait de l'énorme tube de Almaria, Claquette Chaussette.
Et on annonce aussi le coup de cœur que vous pourrez écouter ce mois-ci, c'est l'émission « Au nom du délire républicain » de l'émission « Comme un poisson sans bicyclette » sur Radio Zinzine de ce mois-ci, septembre 2023.
Très bon mois à toutes et à tous.
Au mois prochain.
C'est ma blague préférée du moment. C'est une personne, elle a 5 bites, et du coup, son slip, il lui va comme un gant.
C'est Tata Kiwi et Bébé Kiwi qui sont dans un frigo comme ça, ils sont frais et tout, ils sont bien. Et là, il y a un petit œuf qui arrive et tout. Et il y a Bébé Kiwi qui fait « Regarde Tata Kiwi, il y a un nudiste !»
En claquette au calme, sur mon transat au calme.